philosophie de l'art, cours du Père Philippe, Saint-Joseph, le 14 novembre 84.
Alors, continuez à essayer, à partir de l'expérience du travail, de voir tous les éléments qui sont impliqués dans le travail, sans développer, hein, simplement pour montrer tous les problèmes qui sont autour de cette expérience, qui peut être très simple, et qui est en même temps très complexe, et qui, de fait, au cours des âges, a pris des modifications assez grandes. On ne peut pas nier que c'est du côté du travail que peut-être l'expérience humaine connaît la plus grande variété. Et ceci est assez normal, étant donné que l'outil conditionne le travail. L'outil ne détermine pas normalement le travail, mais le conditionne, et le développement si grand de l'outil au cours des âges et récemment. Alors si on allait un peu plus loin, on dirait qu'il y a de fait un nouvel outil. Les premiers se définissaient comme un prolongement de la main. Et ça, c'est très intéressant. C'est cette manière dont Aristote définit l'outil. C'est le prolongement de la main. La main est un instrument conjoint à l'égard de notre intelligence, à l'égard de ce que nous, du travail, nous travaillons par la main, nous travaillons par le pied, nous travaillons par la tête. Mais il y a un nouvel outil, l'ordinateur, qui est au fond le prolongement de l'intelligence et du raisonnement, et qui permet alors, par le fait même, à faire que le travail va prendre encore une nouvelle dimension. Ce qui fait que, vraiment, le travail a connu, c'est une chose qui serait très intéressante à faire au plan philosophique, à bien préciser ces mutations dans le travail. Je ne crois pas que ça a été fait sans philosophie, si vous voulez, ça a été fait d'un point de vue descriptif purement, en voyant... On parle tout le temps de l'industrialisation du travail, l'automation. Et bon, c'est très vrai. Ça fait des choses très importantes. Mais il faudrait les travailler au point de vue proprement philosophique, dans une vision philosophique. Qu'est-ce qu'il y a de changé? Au point de départ, l'outil conditionne. Il conditionne du côté de la vitesse, de la rapidité, donc au point de vue du temps, étant donné que le travail est mesuré par le temps. Là, la très grosse différence avec le point de vue de l'amour d'amitié. L'amour d'amitié n'est pas mesuré par le temps, tandis que le travail est mesuré par le temps. Et parce que le travail est mesuré par le temps, on comprend comment il est conditionné par le temps. Et puis, il est de l'ordre de l'exécution. Alors, dans l'ordre de l'exécution, la rapidité est une qualité. Alors, si un travail peut se faire plus rapidement, il gagne comme travail, comme efficacité. Alors on comprend très bien comment tout l'effort se porte sur l'outil pour pouvoir avoir un rendement meilleur, pour avoir une efficacité nouvelle. Et alors l'outil a pris une amplitude de plus en plus grande jusqu'au moment où l'outil non seulement conditionne, mais détermine. Et alors ça, au point de vue philosophique, c'est quand même quelque chose de très très important. Parce que l'homme a une situation vis-à-vis de l'outil qui n'est plus du tout la même. Le jour où l'outil détermine, l'homme devient surveillant de l'outil. Donc il n'est plus celui qui domine, mais celui qui est dominé. Alors, évidemment, l'outil vient de l'homme, et donc l'homme a d'abord dominé. Mais il fait quelque chose de tel qu'il est dominé par l'outil. Ce qui fait que le travail, à partir de ce moment-là, prend quelque chose, prend un caractère nouveau. Ce caractère particulier d'être le surveillant de l'outil. Et non seulement c'est ça, c'est déjà énorme ça, mais ça fait un très gros changement aussi, c'est que l'outil va s'imposer. Et alors, autour de l'outil, il s'impose en ce sens que ça exigeait un très grand travail, un très grand investissement, Il faut donc que tout cela puisse être retrouvé par l'efficacité de l'outil. Donc autour de cela, il va y avoir des propagandes. Aristote aurait été très intéressé à ça, et Platon aussi. Quand il voit justement que quand le développement de la cité, qu'une cité exige des rapports avec une autre cité, qu'est-ce qu'il verrait là? Il verrait que de fait, l'outil prenant une telle importance va exiger tout un autre développement, un halo de propagande autour de l'outil, qui va faire que tout va être faussé. Parce que ce n'est plus pour l'intérêt des hommes qu'on travaille, c'est pour simplement qu'il n'y ait pas de perte dans l'investissement énorme qu'on a fait. Et donc, à ce moment-là, on travaille non plus pour l'homme, mais tout simplement pour l'argent. Et alors, cette chose qui est très nette aujourd'hui, les gens ne travaillent plus pour une œuvre, ils travaillent pour gagner leur vie. Et ceci fausse complètement la perspective du travail. Et c'est ce que le Saint-Père souligne de façon si nette dans son encyclique, si on sait la lire, parce que c'est pas dit du tout ça, comme je l'ai dit maintenant, c'est dit autrement. Quand le Saint-Père montre que du fait, du côté du capitalisme, comme du côté du marxisme, il y a quelque chose qui a complètement disparu, c'est qu'on ne travaille plus pour l'homme. On ne travaille plus pour l'œuvre utile. On travaille pour gagner de l'argent. On gagne, on travaille pour être le premier sur le marché. Que l'efficacité soit telle que les produits l'emportent. Alors, à partir de ce moment-là, un marché l'emporte sur l'autre, rivalité entre les marchés, c'est tout ce qui se passe avec le Japon aujourd'hui. Et quand vous allez en Suisse, vous voyez que la crainte terrible de la Suisse, c'est le Japon. Ben, c'est une chose extraordinaire. Je vous dis, hein, la conversation que j'ai eue pendant 3 jours avec les secrétaires des syndicats chrétiens, c'était toujours ce problème qui revenait. C'était qu'est-ce qu'on va faire? On va être enfoncé, on va devenir les esclaves des Japonais. Alors on va perdre complètement l'autonomie, on va perdre d'un point de vue industriel. On voit très bien cette espèce d'inquiétude énorme qui fait qu'à ce moment-là, vous voyez, on voit que ce n'est plus le travail qui l'emporte, c'est le point de vue économique et le point de vue uniquement du rendement. Et bien ça, ça fausse complètement. Alors c'est intéressant de voir d'où ça vient et comment c'est venu. Est-ce qu'on peut arriver à dépasser ça, ou est-ce qu'on peut ne pas arriver à le dépasser qu'on est obligé? J'avais déjà vu ce problème dans certaines industries au point de Paris. Alors eux avaient réglé le problème par le point de vue de la qualité. C'est aussi très intéressant. Arriver à résoudre le problème, j'ai visité toute une usine au point de Paris, où je connaissais bien ceux qui étaient à la tête, et ils m'avaient invité pour essayer de réfléchir un peu sur ce problème, de voir comment répondre à une rivalité économique très forte. Alors, eux avaient répondu par le point de vue de la qualité. Alors, à la place, vous voyez, de demander à l'ouvrier d'aller selon un rythme de plus en plus rapide, et donc ne regarder que les résultats au point de vue quantitatif, orienter la mentalité des ouvriers vers le point de vue qualitatif. On a une prime si on détecte dans l'œuvre qu'on fait, cette œuvre qui passe en série, mais au moment où elle passe, si on détecte dans l'œuvre qu'on fait un défaut. C'est très, très amusant, du reste. C'est juste l'inverse de l'habitude. Mais c'est très intéressant parce que ça redonne au travail son aspect qualitatif et toute l'attention au travail. Et de cette manière, ils arrivaient à se maintenir sur le marché au-delà du point de vue japonais, pour le moment. Parce qu'on disait, au moins cette marque-là, qualitativement, on est sûr. Alors qu'autre part, ben, c'est quelque chose qui est meilleur marché, mais on n'est pas sûr, ça ne durera pas. Donc l'aspect qualitatif, qui revient au-delà de l'aspect série. Donc un autre facteur, qui n'est plus le facteur de l'efficacité pure, mais qui est le facteur de la qualité. Alors là, c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'alors l'on rejoint profondément l'ardeur au travail, comme dit le Saint-Père, l'attention au travail et l'aspect humain du travail. Et je crois que c'est très astucieux. Moi, j'en avais parlé théoriquement, à la manière de Platon, mais quand, une fois après une conférence, j'avais dit ça, un chef d'entreprise me dit, mais mon père, c'est très intéressant ce que vous avez dit, parce que c'est ce que nous cherchons déjà depuis quelques années. Venez voir les résultats. Et j'ai vu en effet toute une usine, avec quand même 1000 ouvriers, c'est pas petit, qui tous étaient orientés vers ce point de vue-là, ce point de vue qualitatif. Donc être très attentif quand ça passe, je ne sais plus exactement ce que c'était, je risque de ne pas dire exactement ce que c'était, mais c'est peu importe peu. L'aspect important, c'était de voir quand ça passait d'une main à l'autre, d'être attentif à l'aspect qualitatif, pour que le produit soit impeccable et qualitativement garanti comme un produit qui est parfait. Alors ça revient l'attention, ça revient l'aspect beaucoup plus humain, même si on n'a qu'un moment l'œuvre, on a cet aspect-là. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui lutte contre l'efficacité de l'outil, qui lutte contre la méthode à tout prix, et qui fait qu'il y a quelque chose de plus important que la méthode, c'est l'attention humaine. Pourquoi ? Parce que la matière peut toujours impliquer un défaut, que la méthode et l'outil ne voient pas, et que seul l'œil de l'homme, attentif au travail, peut détecter. Et donc ça reprend un caractère humain. L'aspect qualitatif du travail. On essaiera de comprendre ça, parce que c'est pas si commode que ça, essayer de comprendre au point de vue philosophique. Mais c'est important. Donc il faut le retenir. Efficacité, qualité. Oui, alors nous retrouvons quantité et qualité. Hein, ce qui est intéressant au point de vue philosophique. Le combat entre la qualité et la quantité. Il y a des gens qui aiment la quantité, il y a des gens qui aiment la qualité. Il y a des gens qui aiment mieux quelque chose qui, quantitativement, soit moins, mais qui qualitativement soit mieux. Alors vous retrouvez toujours deux types de personnes. Alors évidemment, là aussi, la dialectique hegelienne qui prétend qu'entre la qualité et la quantité, il n'y a aucune différence. On essaiera de le comprendre. Il faut le noter, ça. Allons un peu plus loin maintenant, entrons dans un autre domaine. Toujours le travail, toujours l'expérience du travail. Je peux travailler en pure manœuvre. On sait ce que c'est, surtout dans la vie religieuse. On peut travailler en pure manœuvre. Hein. On vous dit « exécutez cela ». Puis on ne vous dit rien d'autre. C'est très bien. Si on est très vertueux, on arrive à le faire. Tout en disant « c'est idiot ce qu'il me demande, il ne s'aperçoit pas, complètement d'imbécile hein. ». On ne le dit pas, mais on est tenté. N'est-ce pas ? Parce que le travail d'exécution pure ne vous fait pas voir la finalité et ne vous fait pas voir d'où ça vient. On peut travailler au contraire en comprenant. Alors c'est un élément, je crois, essentiel pour maintenir le travail humain. On peut travailler au contraire en voyant l'orientation du travail. C'est-à-dire comprendre que le travail exécute un projet. La pure exécution ne nous montre pas le projet qui est en cours. Donc on avait vu le travail. J'avais descendu du travail jusqu'à l'heure, en voyant le travail transformation de la matière. Maintenant, nous remontons. Parce que le travail, appliquant l'outil, appliquant la méthode, très bien, dans l'aspect efficacité, l'aspect qualité. Maintenant, nous remontons. Le travail, c'est de l'ordre de l'exécution. Ça, c'est sûr. J'exécute mon travail. Toute l'exécution dépend d'une orientation. L'exécution implique l'orientation. On travaille en transformant la matière en vue d'une œuvre. Donc il y a une détermination dans le travail. Il y a une orientation du travail. D'où vient cette orientation? Elle vient d'un projet. Il y a un projet que je veux exécuter, que j'exécute par le travail. Il peut y avoir entre les deux un abîme. Il y a des gens qui font des projets, des plans. Puis il y a ceux qui exécutent. Il y aura toujours comme ça un peu, division du travail. Il y a des gens qui pensent et qui donnent un projet. Alors, reprenons l'exemple de l'art artisanal. Parce que c'est dans l'art artisanal qu'on voit le mieux cela. Qu'on voit mieux le lien qui existe toujours dans l'art artisanal, qu'on trouve le mieux ce qu'est le travail humain. Ça, c'est bien évident. Et de plus en plus, ce sera comme ça. Ce sera dans l'art artisanal qu'on trouve le mieux ce que c'est que... Alors, le philosophe sait que c'est complexe de parler du travail, donc il a le droit de choisir l'exemple ou l'expérience où il est le plus à l'aise. J'ai toujours le droit de faire ça. Il suffit tout simplement de préciser, je suis dans une expérience d'un travail artisanal. On doit beaucoup aimer, si on est artisan soi-même, on doit y réfléchir, si on n'est pas artisan soi-même, essayons d'écouter des artisans. Ayons comme amis des artisans qui veulent bien parler, parce qu'ordinairement les artisans ne parlent pas beaucoup. Mais ayons des artisans qui aiment de parler et qui nous montrent ce que c'est. Tout art, hein, artisanal. L'homéopathie est un art artisanal. Ça, c'est sûr. C'est un art artisanal où il faut essayer de découvrir les pistes et les contours. Donc, il y a un moment où on pense. Le projet provient d'une inspiration. Ça, c'est très important. Parce que ça nous fait comprendre le point de départ d'un véritable artisan. Le point de départ d'un véritable artiste. Il ne travaille que quand il a une certaine inspiration. Quelque chose qui l'éveille. C'est un artiste qui dit, moi je ne travaille que quand je suis en état de grâce. C'est un peu très bien, c'est quand il y a un peu d'inspiration, autrement on ne travaille pas. Pourquoi ça sert? Ça sert à rien du tout, il n'y aura rien du tout qui sortira. Mais il n'est pas du tout celui qui exécute pour exécuter, on s'en fout très bien. Mais celui qui veut vraiment travailler, réaliser une œuvre, et l'artisan veut réaliser une œuvre, eh bien, il doit, avant le travail, avant l'exécution, il y a une inspiration. Je sais très bien, et il faut bien comprendre, on va essayer de comprendre ce que c'est que l'inspiration, c'est très très important au point de vue philosophique, c'est très important d'essayer de réfléchir sur ce que c'est que l'inspiration, c'est même capital. Je sais très bien que l'inspiration, de fait, se précise pendant tout le travail. Normalement, c'est comme ça. Si, entre l'inspiration et le travail, c'est la même personne. Hein. Si c'est deux personnes différentes, c'est différent. Il y en a un qui a l'inspiration, et à travers l'inspiration, il découvre progressivement l'idée, le projet qu'il veut réaliser. Et pour le réaliser, tout point de vue de l'application et du travail. Alors, vous trouvez là une phase très particulière qui peut être coupée du travail. Elle peut être coupée, mais elle existe toujours. Parce que même quand vous faites uniquement d'exécuter, il faut espérer qu'il y a quelqu'un qui a pensé à vous. Parce que s'il n'y a personne qui a pensé avant, votre exécution, votre travail pourra très bien être complètement inutile. Ça arrive de temps en temps, en vie commune. Ça arrive de temps en temps. On vous demande d'exécuter ça, puis à la fin de l'exécution, ah, je me suis trompé. Attends, j'ai travaillé pendant 12 heures, oui, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que l'inspiration, elle n'existait pas beaucoup. Il n'y avait personne qui avait pensé. Automatiquement, on fait ça très bien, automatiquement. On a complètement oublié de penser. Est-ce que c'est utile aujourd'hui? Est-ce que c'est bon aujourd'hui? Ça arrive quand, de fait, ça passe entre diverses mains. la division du travail du bon, mais la division du travail quelquefois aboutit à des impasses. Surtout quand il n'y a pas de lien entre les deux. Alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va plus. Ça arrive, c'est une petite expérience qu'on peut faire et qui nous met en colère, ordinairement. Ordinairement, ça nous met en colère. Ça. Vous avez travaillé pendant 2 heures, vous avez exécuté pendant 2 heures quelque chose, et puis on vient vous dire, ah, ça ne sert à rien, on s'est trompé. Bon, on aurait pu le dire, 2 heures de passé, 2 heures de perdu, et puis non seulement la perdue, mais aussi, peut-être aussi la matière qui est perdue. Parce qu'il n'y a pas eu d'assez de conjonction entre le travail et celui qui pense. Il y a toujours quelqu'un qui doit penser. Tout le temps, ça, c'est, on ne remplacera jamais ça. Il y aura toujours quelqu'un qui pense. Il y aura peut-être l'ordinateur. Hein, mais pour que l'ordinateur puisse marcher, il y aura quelqu'un qui pense. C'est sûr. Qui pourra exécuter lui. Là, parce que l'ordinateur ne fait qu'exécuter. Hein. Mais il est à un niveau de la pensée, puisqu'il est l'instrument de la pensée. Alors il peut mettre pendant un certain temps un anonymat. On ne sait pas d'où ça sort. Vous devez exécuter ça. Alors on exécutera. Mais ça provient toujours de quelqu'un qui a pensé avant. L'inspiration. Et avant l'inspiration, il y a l'expérience artistique. L'expérience esthétique ou artistique, ça dépend. On peut dire esthétique, là. L'expérience esthétique. Je crois que pour qu'il y ait inspiration, il faut beaucoup d'expérience. Ça ne vous tombe pas du ciel comme ça. Non. Les muses, hein, les muses. Vous êtes très bien, les muses, elles sont souvent muette. Et il faut beaucoup d'expérience. Donc, il y a d'abord l'expérience. Un mécano, c'est un homme d'expérience. Il écoute le moteur de l'avion, de l'auto, il voit tout de suite. Exactement comme un médecin, quand il vous prend tout, il voit tout de suite. Il sait exactement ce qu'il en est. Pas besoin d'instrument plus pour confirmer, mais il sait d'avance. Il comprend. Écoute le cœur, il devine, et ainsi de suite, l'expérience. L'expérience artistique. Quelqu'un qui est un béotien ne comprendra rien du tout. Il ne saisira pas du tout. Mais si vous avez un tout petit peu d'expérience, une expérience d'un type particulier, c'est ça que je dis, l'expérience artistique, vous voyez. La philosophie ne commence pas par l'expérience artistique. L'expérience artistique est normalement le halo qui enveloppe l'inspiration. Et l'inspiration est quelque chose de différent. Il y a un moment différent entre les deux. Il faudra bien préciser ça. Expérience, inspiration. Où il y a un petit projet. Oh, ça doit être ça. Je vois. Mais c'est presque une intuition. On saisit subitement quelque chose. Puis on veut le réaliser. Alors, inspiration, projet, expérience, c'est 3 aspects antérieur au travail, normalement antérieur au travail. Quand je dis antérieur au travail, ça ne veut pas dire que ce n'est pas coextensible. Ça veut dire que, de fait, pour que le travail soit vraiment orienté et humain, alors c'est ça qui devient important. Pour que le travail soit orienté et soit humain, il faut qu'il soit dans le prolongement d'une inspiration qui elle-même plonge dans l'expérience et qui a produit une espèce d'idée de projet. Et alors, il y a eu, à partir de cette idée, de ce projet, à partir de l'inspiration, il y a donc là un choix créateur. Je choisis à travers tous les possibles, je choisis celui qui me semble être vraiment celui qui m'intéresse le plus. Celui qui s'impose à moi. Alors je suis en face d'un projet qui s'impose. Hein. Un projet chez un artiste, une idée chez un artiste, ça s'impose d'une façon catégorique. On ne peut pas faire autrement. Il est pris par ça. Il est saisi par ça. Et alors c'est ça qu'on appelle les voies déterminées de l'art. C'est Aristote qui dit ça, et ça d'abord le reprend, pour montrer la très grosse différence avec l'homme prudent. L'homme prudent, il n'a jamais de voie déterminée. Donc un homme prudent est toujours, toujours prêt à modifier son orientation. Alors si le scrupule s'y mêle, ça devient effrayant. On n'arrive jamais à se décider. Il n'a jamais essayé. Tandis qu'un artiste se décide très vite. En raison de son inspiration. S'il n'a pas d'inspiration, il ne se décide pas. Il ne se décide pas, l'artiste. Il se décidera dans la mesure même où l'inspiration. Mais l'inspiration est source de décision pour un artiste. Et c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait un autre domaine que le domaine moral. C'est ça qui est intéressant à voir. C'est que parallèlement, vous voyez, c'est ce que nous allons essayer de comprendre, parallèlement à ce développement de l'activité artistique pris dans son ampleur, dans toute son ampleur, il y a parallèlement pour nous le développement de l'agir. Donc, comprenons bien, je suis parti de l'expérience du travail. Cette expérience du travail, si je l'analyse, si je la décris, si vous voulez, je m'aperçois qu'il y a toutes ces dimensions. Alors, je pourrais préciser maintenant quelles sont les diverses causalités que nous avons découvertes dans le travail. Qu'est-ce qui est cause du travail ? Est-ce qu'il s'agit de découvrir les causalités au niveau philosophique ? Puis après, nous verrons les différents moments de l'activité. Alors, le travail, il provient de la volonté de l'homme. C'est un acte volontaire. Bien évident. Je veux travailler, je m'applique à travailler. C'est un acte volontaire. Donc, causalité efficiente. La volonté humaine, ça, je crois. Quelle est la détermination, le caractère spécifique qui détermine le travail? Qu'est-ce qui fait que le travail, c'est tel travail? Alors là, c'est le projet choisi, c'est l'idéal. Cause formelle qui va jouer le rôle d'une cause exemplaire. Ça, on le verra progressivement. Le travail va modifier la matière, donc la matière, ça c'est cause matérielle, c'est bien évident. Et la cause finale, l'homme. Vous découvrez les diverses causalités. Les diverses causalités de ce que représente ce point de vue du travail dont vous avez l'expérience. Vous découvrez d'où ça vient. Qu'est-ce que c'est? En vue de quoi? Et par le même, de quoi je travaille? L'outil et les méthodes viennent comme des causalités instrumentales perfectionner la cause efficiente principale qui est la volonté humaine. Ça, c'est des causalités instrumentales. Et quand l'outil est trop fort, il peut étouffer la volonté. Je laisse l'outil travailler tout seul. C'est l'immense avantage de devenir un surveillant. Plus besoin d'effort, c'est le travail qui se fait. Alors, c'est l'outil qui devient cause efficiente principale. Sinon, pas instrumental. Au point de départ, le propre de l'outil, c'est d'être une causalité instrumentale. Qui dit causalité instrumentale, dit une causalité nécessairement dépendante d'une causalité efficiente principale. Mais évidemment, la causalité instrumentale peut devenir une causalité principale. C'est ça le propre de la révolution. C'est quand l'instrument devient cause principale. C'est très curieux, ça. C'est très, très curieux. Au point de vue philosophique, c'est très vrai quand l'instrument prend une telle importance qu'il étouffe la cause principale. Et que la cause principale ne devient plus que le surveillant, uniquement. Tout est déterminé, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à regarder. Alors on est là pour éviter les accidents, éviter les encombrements. Mais en fond, c'est cause instrumentale. Le reste, je crois qu'il faut comprendre que la cause exemplaire, elle a différents moments qui s'enracinent fondamentalement dans l'expérience. Ça, c'est le fondement, derrière. Bon. Maintenant, relevons ces différents moments. Je développe donc ce qu'on appelle en latin le facere, c'est-à-dire l'activité propre de l'homme qui est une activité artistique. L'homme est un artiste qui réalise une œuvre. Je peux essayer de préciser les différents moments de cette activité du facere. Premier moment, l'expérience. Je dis l'expérience esthétique, l'expérience artistique, une expérience très pratique, le mécano. C'est l'expérience. Deuxième moment, l'inspiration. Troisième moment, l'idéal, que l'idéal extrême. Il ne faut pas mettre l'idée, n'est-ce pas? L'idéal, en latin, ça veut dire le projet, c'est la cause exemplaire, c'est à partir de quoi je vais pouvoir travailler. Donc l'idéal. Alors, l'idéal, pour qu'elle soit mise en pleine lumière, elle implique un choix créateur. C'est l'idée qu'on met en pleine lumière. Ensuite, quatrième moment, j'ai le point de vue, je travaille proprement dit. Dans le travail, donc, toute la complexité du travail, mais au fond, c'est le travail, l'application. Puis, cinquième moment, la réflexion critique. Un bon travailleur, à certains moments, s'arrête pour voir si son travail est bien fait. Il fait ça automatiquement. C'est très bien. Il regarde. Réflexion critique. Il y a une réflexion critique durant toute l'exécution du travail. Pour voir si c'est bien ça, si c'est conforme à ce qu'on doit faire. On lui a demandé de réaliser ça, il s'arrête pour voir. C'est très très... Un artisan, c'est très net. Il est merveilleux de voir ça. Et c'est ponctué. Il s'arrête, il regarde. Conformité. Il regarde sixièmement. Voilà les six grands moments qu'on peut dire qui sont présents dans toute activité du facere. Alors maintenant, on va faire un petit parallélisme très intéressant à bien étudier. L'activité de l'homme implique donc le facere et l'agere. En développant le géré, je développe la philosophie morale. La philosophie éthique. Ici, je développe la philosophie de l'activité artistique. Toute philosophie de l'activité artistique va impliquer l'étude de ces différents moments. Alors, l'adgéré. L'adgéré présuppose l'expérience de l'amour d'amitié. Je ne le fais pas ici, puisque ce n'est pas ça que nous faisons, mais c'est simplement pour mettre un parallélisme. L'adjuré commence avec un amour spirituel, un amour à l'égard d'un bien spirituel, c'est-à-dire une personne. Pas d'activité morale sans un éveil d'un amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de morale. Ça, c'est bien simple. Sauf chez Kant. Parce que pour lui, la morale, c'est l'impératif catégorique, même s'il n'y a pas aucun amour. Tu dois faire ça. Enfin, l'exécution. Tu dois faire ça. Même s'il n'y a pas d'amour, il y a le devoir. Tandis que là, je crois qu'il faut dire que ça commence par le point de vue. Puis, vous avez, deuxième moment, l'intention. Le bien se transforme en fin. Le bien m'a fait. Poursuit le désir atteindre. Troisième moment, le conseil et le choix. Je mets ensemble. On pourrait mettre 3 et 3 bis, si vous voulez. Le choix d'élection. La retraite d'élection. Qui regarde les moyens. Plus la fin, c'est les moyens. Pour atteindre la fin. Puis, quatrièmement, l'exécution. Il s'agit de s'y mettre. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup aimé. Je sais très bien ce qu'il faut faire. L'intention. Bon, j'exécute. On se jette à l'eau. L'exécution. On décide. J'entre au noviciat, telle date. Ça, c'est l'exécution. J'ai beaucoup réfléchi, il y a eu l'élection, puis j'exécute. Je me jette à l'eau. Vous voyez, c'est quelque chose de très particulier, l'exécution. Parce que jusque-là, tout ça est vécu intérieurement. C'est l'intériorité ici. Mon intériorité, elle est faite d'amour et d'intention. Elle est faite de choix. Tandis que dès que je suis dans l'exécution, ah, c'est le milieu extérieur. C'est ça qui est si gênant. Je suis obligé de dire que j'entre. Jusque-là, je pouvais le garder pour moi. C'était un secret. Intérieur, un secret. Tout ça, c'est un secret. L'amour, l'intention, le conseil. Si j'ai demandé conseil à un ami, je lui dis, garde mon secret. C'est bien entendu. Je te demande conseil à toi, parce que j'aime mieux demander conseil, j'aime mieux avoir un conseil, mais garde le secret, tais-toi. Puis, mais au moment de l'exécution, je ne peux plus. Ça éclate. Je me jette à l'eau. Alors, tout de suite, le point de vue du milieu. Donc, toutes les circonstances de l'extérieur qui interviennent et qui font que c'est beaucoup plus complexe. C'est toujours très complexe, la phase d'exécution. C'est pour ça que pour des intellectuels, la phase d'exécution est toujours une terrible épreuve. Tout ce qui est intérieur au savant, on est seul avec Dieu, on est seul avec ses amis. Et avec les amis, on peut parler, mais l'exécution, il n'y a plus d'amis. Il y a des requins. C'est l'exécution, il faut passer à l'exécution, il faut se jeter à l'eau. Ça, c'est l'exécution. Alors, après l'exécution, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'application. On fait l'usage. L'usage de nos facultés, on s'applique. On est attentif. Et sixièmement, il n'y a pas d'œuvre au niveau de l'amour d'amitié. Il y a la joie. Il y a la présence, c'est la joie. J'ai atteint ma fin. J'ai atteint ma fin et je suis dans la joie. Alors, je crois que nous pouvons assez facilement, dans une étude de l'activité morale, de notre activité morale que nous connaissons, dont nous avons l'expérience parfaite à partir de l'amour d'amitié. C'est l'amour d'amitié qui va tout de suite, dès que je l'étudie, j'essaie d'en comprendre toute la complexité. L'amour d'amitié implique de fait ces différents moments. L'amour spirituel qui regarde le bien. Et le bien spirituel, c'est une personne. L'intention, parce que cet amour spirituel, je veux atteindre ce bien me transcende, il me dépasse. D'où l'intention. Attention, orientée vers ce bien atteint, qui est la fin. Pour atteindre cette fin, il y a des moyens, puisqu'elle ne m'est pas immédiatement donnée. Je réfléchis sur les différents moyens, sur les différents possibles. Les moyens, c'est toujours des choses possibles. Je ne prends jamais comme moyen un impossible. Ça n'existe pas. Le propre du moyen, c'est quelque chose de possible, quelque chose qui est à ma portée, quelque chose que je peux atteindre. Alors à ce moment-là, je choisis, après avoir vu, après une information, après avoir fait mon enquête, je choisis tel moyen plutôt que tel autre. Et une fois que j'ai bien choisi ce moyen, j'exécute. Je me jette à l'eau. Alors là, l'exécution, c'est très spécial. Je passe dans un milieu et puis je m'applique. J'essaie de comprendre, je m'applique, je suis attentif à tel ou tel. Alors ça dépend sur quelle décision je dois faire. Au fond, il y a l'usage de mes différents pouvoirs, de mes différentes capacités. Je m'applique à réaliser ça. Puis la joie de la présence du bien aimé. Vous trouvez ça exactement dans l'amour d'amitié. Dans l'amour d'amitié, vous trouvez l'amour fondamental, l'intention. Il faut que les deux amis aient la même intention. Il faut le choix. Alors c'est dans le choix que la liberté apparaît dans toute sa force. Mais la liberté, elle est déjà ici. Dans toute intention, il y a une certaine liberté. Et c'est surtout dans le choix que la liberté apparaît. Et puis, alors il faudra se demander parallèlement avec le Vatchéré. C'est important de comprendre que notre activité humaine, pratique, implique toujours ces deux dimensions. Toujours. C'est une analyse. Hein. C'est une analyse philosophique. Dans la vie, les deux sont très liés. Et des quantités de confusion se font. Parce qu'on ne voit pas assez si c'est de l'activité morale ou de l'activité artistique. Et c'est pour ça que c'est important de bien analyser les deux. Non pas pour les séparer, mais pour les analyser. Alors, première question qui se pose, une fois que j'ai fait ce petit tableau. Je crois que ce petit tableau, on peut le comprendre assez facilement, et il s'impose un peu à nous. C'est facile à comprendre, c'est de l'ordre de nos expériences habituelles. On peut se poser la question, y a-t-il dans notre vie humaine un Vatchéré pur? Y a-t-il dans notre vie humaine un Adjéré pur? Ou est-ce que le Vatchéré et l'Adjéré sont tout le temps liés l'un à l'autre? C'est une première question très importante. Parce que s'il y a un Vatchéré pur, c'est ce premier moment que je dois saisir pour bien comprendre ce que c'est que cette activité de l'activité artistique. S'il y a un agir pur, une activité morale pure, c'est à ce moment-là que je dois la saisir dans toute sa pureté. Puis ensuite, voir les moments complexes. Et assister à un cours, c'est du Vatchéré et c'est l'agir. Et en plus de ça, une nouvelle dimension, normalement, un cours de philosophie, c'est fait pour nous conduire à la vérité, pour mieux comprendre l'homme, pour mieux saisir l'homme. Parce que c'est fait pour ça. Alors, c'est l'intelligence qui doit normalement progresser. Mais vous avez de l'agir, surtout en vie religieuse. Vous assistez au cours par obéissance. Ça, c'est de la morale. Peu importe que vous soyez, que vous écoutiez ou que vous n'écoutiez pas, il faut que vous soyez présent. Donc, activité, c'est de l'obéissance. Vous grattez, ou vous ne grattez pas, peu importe. Mais vous grattez, c'est du Vatchéré. Bien évident. Prendre des notes. Si je regarde les notes que vous prenez pendant le cours, hein, je verrai que pour certains, c'est une œuvre artistique. Pour d'autres, c'est un fouillis impossible. C'est très curieux, ça. On voit tout de suite l'artiste qui prend, parce que c'est de l'œuvre de l'artisanal. C'est sûr. Puis, il y a éveiller son intelligence, être attentif. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'agir? C'est une activité morale ou c'est du Vatchéré? Éveiller, être attentif, quoi. On veut coopérer quand même. Alors, il y a une troisième dimension, vous voyez, dans le cours. Troisième dimension qui serait la dimension de la philosophie politique. Ça fait partie de la philosophie politique, un cours. Ça, c'est sûr, puisqu'il y a une coopération. Alors, la coopération n'est ni du côté de l'agir, ni du côté du Vatchéré, et du côté politique. Donc, assister à un cours implique, vous voyez, une expérience de la philosophie morale, de la philosophie artistique, de la philosophie politique. puisque dans tous les cours que nous suivons, il faut coopérer. Coopérer, c'est appliquer son intelligence à la recherche de la vérité. Si le professeur recherche la vérité, nous coopérons avec le professeur en cherchant la vérité. Si nous sommes attentifs au cours, nous éveillons l'intelligence du professeur. Si nous ne sommes pas attentifs au cours, nous n'éveillons pas son intelligence. C'est vrai, si tout le monde dormait au cours, je crois que le professeur, au bout d'un certain temps, dormirait, vous voyez, parce qu'on dirait, il n'y a plus la peine, c'est pas la même. Vraiment, c'est tout à fait inutile. Et la réflexion que je vous faisais à propos du spectacle sur Jeanne d'Arc, hein, les actrices, elles-mêmes me disant immédiatement après, merci de la qualité de l'écoute. Parce que ça nous a permis de jouer avec une attention beaucoup plus grande. Et ça nous a permis de comprendre le texte plus profondément qu'avant. Nous n'avons jamais eu un auditoire comme cela. Donc, l'écoute comme ça. Et ça nous a obligés d'aller beaucoup plus loin. La coopération. Et c'est vrai pour toute espèce de cours philosophique, ça c'est bien évident. C'est vrai pour la prédication. Quand vous voyez devant vous des gens qui regardent leur pendule toutes les 3 minutes, n'est-ce pas, vous n'avez pas envie de continuer, n'est-ce pas, vous n'avez pas envie de continuer, si c'est ça, je m'arrête. C'est pas ça. Si au contraire vous voyez des gens qui sont passionnés, qui sont très avides, écoutez, ah, ça va, on peut y aller. Il faut toujours quelqu'un ait soif, oui, avide, par l'application. Alors, là, vous avez quoi? Vous avez une attitude morale. C'est l'attitude morale, l'application. L'application, oui. L'usage. Vous avez décidé d'assister à un cours. Vous assistez à un cours pour essayer d'entrer plus profondément dans la vérité. Alors, si ça vous passionne, vous êtes dans l'attitude de celui qui écoute. L'application, c'est une attitude morale. L'application est une attitude morale. Dans la mesure où la morale disparaît, l'attention disparaît. Ça, c'est une expérience que font tous les...